Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré aux élections aux États-Unis. À l'ordre du jour ce soir, États-Unis, le cadre démocratique peut-il tenir? Vous l'avez entendu dans le journal, les résultats définitifs du vote aux élections américaines ne sont pas encore connus, mais la situation est bien plus balancée que ne le laissaient entendre les derniers sondages. Bien des menaces, à moins que ce ne soit des rodomontades, ont été lancées encore ce matin par le président sortant quant à la sincérité du scrutin et à la présence possible de fraude. Des propos qui s'ajoutent à un grand nombre d'analyses, de livres et d'articles évoquant des États-Unis divisés quand ils ne prédisent pas, ces livres, ces analyses et ces articles, pour les plus pessimistes, une nouvelle guerre civile. Mais en quoi cette élection-ci met-elle en tension la démocratie américaine plus que les autres, ses institutions fondatrices et sa stabilité? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités. À Frédéric Urtebise, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en histoire et en civilisation américaine à Paris-Nanterre, membre du comité de rédaction de Politique américaine. Vous êtes auteur, entre autres, de Péril rouge, Washington face à l'eurocommunisme. Marion Douzou est avec nous en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'université Lumière Lyon 2. Votre thèse portée il y a peu sur le Tea Party et vous êtes membre du laboratoire Triangle. Et aux États-Unis, Norman Ajari, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes philosophe et professeur à l'université Villanova de Philadelphie en Pennsylvanie, un état que l'on surveille beaucoup dans ces élections, et vous êtes auteur de La dignité ou la mort, éthique et politique de la race aux éditions Empêcheurs de tourner en rond et La découverte.
C'est une fraude envers le peuple américain. Ça met notre pays dans l'embarras. Nous nous apprêtions à remporter cette élection. Et en toute franchise, nous l'avons remportée. C'est une fraude massive qui est en train d'être exercée. Nous voulons que la loi soit exercée de manière appropriée. Par conséquent, nous allons saisir la Cour suprême et nous voulons que le vote s'arrête. On ne veut pas qu'il trouve des bulletins à 4 heures du matin et qu'il les rajoute à la liste. Nous allons gagner l'élection. Et pour ce qui est des chiffres, eh bien, ils sont de notre côté d'ores et déjà.
Voilà, c'était la déclaration assez sidérante de Donald Trump ce matin aux alentours de 8h30 heure française. On l'a reconnu évidemment par son ton. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être déclaré par l'ancien conseiller des présidents Clinton et Obama qui dirige l'International Crisis Group qui s'appelle donc Robert Malley et qui a dit que toutes les conditions étaient réunies pour un scénario cauchemar évoqué, Frédéric Urtebise?
Je dirais oui, non. Effectivement, tout le monde aurait aimé qu'il y ait un résultat dès maintenant. Moi, il me semble qu'il n'y a aucune raison que Trump puisse saisir la Cour suprême ou d'ailleurs une autre institution. Et il n'y a rien qui empêche un État, puisque ce sont les États qui organisent les élections, qui empêchent les États de gérer leurs élections comme leur loi le prévoit. En l'occurrence, les États, certains États comme la Pennsylvanie, autorisent le comptage des voix après le jour de l'élection.
Et ça a d'ailleurs été confirmé par la Cour suprême.
Tout à fait. Donc cette menace qu'il avait déjà fait planer lorsqu'il a nommé la nouvelle juge de la Cour suprême, qu'il avait d'ailleurs fait, qu'il avait évoqué avant, n'a pas, à mon sens, pour l'heure, de raison d'être.
Oui, sur ce point, Marion Douzou.
Oui, je pense que la réaction du président était attendue. Il avait prévenu qu'il aurait cette réaction. Je crois que ce qui est rassurant de voir, c'est la réaction d'un certain nombre d'élus républicains, mais aussi des médias comme Fox News, qui ont tout de suite dit qu'on ne savait pas encore qui avait gagné l'élection présidentielle, et donc qui ont un peu désavoué Trump, alors que jusqu'à présent, il était rare de les voir faire de la sorte.
Norman Ajari, vous qui êtes sur place, et en particulier en Pennsylvanie et à Philadelphie, où vous enseignez en tant que philosophe et professeur, est-ce que vous pensez justement que ces menaces, que cette menace sur la sincérité du scrutin, ces possibilités de poursuivre dans tous les États si il n'emportait pas l'élection, ces menaces de Donald Trump ont quelque chose de réel, ou est-ce que ça fait partie des fantasmes, y compris d'ailleurs des commentateurs et des journalistes?
Ben, je pense tout simplement que c'est, si on lit un petit peu entre les lignes, ce que le président a dit, c'est qu'il allait utiliser tous les moyens légaux en sa possibilité, en sa possession, pour essayer de retarder l'issue qui lui semble peut-être inexorable, c'est-à-dire l'issue de sa défaite. En tout cas, qu'il allait tout faire pour remettre en cause chaque chose qui pourrait nuire à la légitimité de ce qui lui apparaît comme une victoire. Mais ça me semble pas une menace. Je veux dire que il va le faire, ou il dit qu'il va le faire, dans le respect des institutions. Et ma foi, s'il va faire ce qu'il a le droit de faire pour tenter d'emporter la victoire malgré tout, faire annuler les élections qui pourraient lui être, ou les comptes de vote qui pourraient lui être défavorables dans certains États, les votes par correspondance, etc. Si ça vient à être fait, c'est que le droit le permet. Mmh. Et donc, je pense que c'est pas une menace sur les institutions, c'est simplement, une espèce de stratégie politicienne qu'il tente de faire. Il va utiliser toutes ses cartes pour essayer de garder le pouvoir, à mon avis.
Puisque vous êtes le seul Norman Ajari à vous trouver sur place, et en particulier dans un état très important au moment de ce décompte, c'est-à-dire la Pennsylvanie, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous avez vécu, de l'ambiance dans laquelle vous avez vécu ces derniers jours de campagne entre Biden et Trump, et de ce que, ici, on a perçu comme une sorte d'exacerbation extrêmement forte du débat public et du débat politique par les deux candidats?
Bien, je vous avoue que il est vrai que la Pennsylvanie et Philadelphie ont été un territoire très disputé. Les meetings des candidats se sont multipliés dans cette ville et dans cet état. Mais en réalité, je pense exagérer, en tout cas la tension, exagérer l'hostilité entre les différents militants d'une part et aussi entre les différents camps. C'était malgré tout, me semble-t-il, une élection tout à fait, une atmosphère politique tout à fait, tout à fait courtoise. En tout cas, il est vrai que Philadelphie, c'est une ville qui est acquise au camp démocrate et où on n'avait pas beaucoup de doutes sur l'issue du résultat à Philadelphie, mais cette espèce d'ambiance de guerre civile, c'est absolument pas quelque chose que j'ai expérimenté où que ce soit où je suis allé pendant ces derniers mois.
D'accord, et on voit de toute façon du côté de Philadelphie, c'est un lieu essentiel dans la mémoire américaine. C'est à la fois le lieu de Gettysburg, évidemment, où d'ailleurs Joe Biden s'est rendu, la bataille pour l'âme de la nation, a-t-il appelé cela. C'est aussi l'endroit où se réunissent les premières conventions dans l'histoire américaine, et donc c'est extrêmement important. C'est là où on rédige entre autres la Constitution. Donc il y a aussi peut-être un poids historique sur cet espace autour de Philadelphie et de la Pennsylvanie qui est encore peut-être plus important que dans d'autres endroits du pays, peut-être Norman Ajari. Ou est-ce que je fais trop d'histoire?
Non, vous avez raison qu'il y a cette symbolique, cette espèce d'histoire originaire des États-Unis qui se joue ici. Biden a lui-même des attaches dans ce coin-là.
À Scranton.
Oui, c'est ça. Il est de cette zone de l'Est américain. Et ma foi, il est vrai que c'est un lieu où il est bon de jouer au père fondateur quand on va faire de la politique. C'est une aura que aussi bien la droite que la gauche américaine apprécie.
Et en même temps, c'est une ville où il y a eu, il y a très peu de temps, et vous avez travaillé sur ces questions-là, un homme noir abattu, Walter Wallace Jr., et qui a conduit à un couvre-feu la semaine dernière. Donc c'est aussi une ville qui s'inscrit dans une autre série, une série plus longue, depuis la mort de George Floyd, de dimensions de bagarres raciales et de guerres raciales ou d'affrontements raciaux à l'intérieur de ce pays.
Oui, c'est vrai, mais c'est très étonnant puisque là, ces derniers temps, on a eu vraiment une espèce de microcosme, tout le microcosme américain qui s'est joué dans cet état, puisqu'effectivement, il y a eu cet assassinat de ce jeune homme qui a eu lieu dans mon quartier, en fait, à West Philadelphia. C'est vraiment là où j'habite en plus, donc j'ai pu assister aux scènes de révolte qui ont suivi cela. On a tout le cœur de l'État de la Pennsylvanie, qu'on surnomme parfois avec un petit peu d'humour Pennsylvania, puisque c'est une partie extrêmement conservatrice concernant aux deux villes qui sont à l'est et à l'ouest de l'État, qui a été décrite par un ancien conseiller de Clinton comme un Alabama sans les Noirs, ce cœur de l'État de Pennsylvanie, avec des gens qui aiment beaucoup les armes à feu, qui votent énormément Trump. Et On a donc là, ouais, effectivement, une espèce de petit drame qui se joue et qui ressemble à celui en miniature de cette Amérique, avec ces noirs dans les villes, ces noirs dans les ghettos, ces blancs libéraux dans les banlieues de Philadelphie, et cette Amérique rurale qui aime sa liberté et qui aime Trump.
Et qui aime les armes aussi, bien évidemment. Alors, si on reprend le cours de notre discussion avec vous, Frédéric Hurtubise et Marion Douzou, cette discussion porte sur la question de la solidité des institutions américaines. Vous nous avez dit au tout début, en répondant à ce qu'avait déclaré Robert Malley, l'ancien conseiller des présidents Clinton et Obama, vous avez dit, Frédéric Hurtubise, oui et non, il y a effectivement un risque de scénario cauchemar, mais tout de même, les institutions sont solides. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pensez que, eh bien, il y a une possibilité de tenir pour ces institutions au cas où il y aurait des tentations de la part de Donald Trump, par exemple, comme il l'a parfois évoqué, de faire des problèmes pour quitter le pouvoir s'il était battu.
Non, tout à fait, parce que, enfin bon, elles sont solides. Bon, certes, les institutions sont très anciennes. La Constitution date de 1787, ce qui fait qu'elle n'est plus tout à fait adaptée sur certains aspects de la vie politique. Mais elle est, cette Constitution, extrêmement respectée par tous les Américains. C'est vraiment un élément fondateur. C'est un élément qui rassemble les Américains. La foi dans la Constitution américaine est un passage obligé, du moins déclarer sa foi dans la Constitution américaine est un passage obligé pour tous les hommes politiques, et on voit mal un président américain en exercice aller à l'encontre des règles qui sont édictées par la Constitution.
Et donc, c'est votre avis aussi, Marion Douzou, vous qui avez travaillé pour votre thèse sur le Tea Party, dont on se dit qu'il est peut-être, d'une manière ou d'une autre, à l'origine à la fois de la réussite de Donald Trump, mais aussi à l'origine de certains des groupes que l'on peut voir dans la rue, qu'ils soient ceux qui se sont promenés à Harrisburg, en Pennsylvanie, très récemment, c'était au mois d'avril, en refusant de porter les masques et en disant stop à la tyrannie, par exemple.
Oui, tout à fait. Je pense que, vous avez raison. C'est, à mon sens, Donald Trump est vraiment le produit, alors d'une longue crise du conservatisme qui s'est accéléré avec le mouvement du Tea Party. Et on voit que depuis son élection, ses militants n'ont pas disparu, bien que le mouvement du Tea Party, comme il existait auparavant, ne se réunissent plus de cette manière, mais les thèmes de ces militants n'ont pas disparu. Et si même si Joe Biden gagne l'élection ce soir, ces militants ne vont pas disparaître du pays. Donc il va falloir composer avec eux aussi.
Oui, parce que on sait les déclarations qu'a pu avoir, disons, qui apparaissaient en tout cas à la presse américaine comme complaisantes de Donald Trump par rapport à ces groupes d'extrême droite qui s'appelaient les Proud Boys. Puis de l'autre côté, il y a les Antifa et qu'ils détestent et qui détestent Trump et que Trump déteste, les Wolverine Watchers et des groupes comme ça qui sont beaucoup plus radicaux que les gens du Tea Party que vous avez pu suivre. Mais néanmoins, il y a toute une sorte de groupes qui sont armés, qui disent qu'ils ne veulent pas se laisser faire, à la fois par les consignes sanitaires, on l'a compris, venant du docteur Fauci, et puis de tout un tas d'autres obligations qui viennent du gouvernement fédéral.
Oui, tout à fait. Et en fait, je crois que pour revenir vraiment sur le Tea Party, je pense qu'il faut vraiment penser au Tea Party comme une nébuleuse conservatrice dans laquelle, en réalité, il y a les groupes, ou un certain nombre de groupes que vous venez de citer. C'est-à-dire que dans les meetings Tea Party auxquels j'ai assisté, il y avait des groupes de milices armées comme les Oath Keepers qui ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers temps. Et donc, c'est cette nébuleuse qui est au cœur de l'élection de Donald Trump en 2016 et qui l'a soutenu majoritairement en 2020.
Et peut-être aussi de sa réélection. Norman Ajari, vous nous disiez depuis les États-Unis et depuis Philadelphie, vous enseignez qu'au bout du compte, vous ne croyez pas à cette exacerbation des passions qui ont été prédites, mais peut-être aussi c'est un récit qu'on se construit, comme Donald Trump et les autres hommes politiques américains construisent des récits. Peut-être nous, les médias, nous en construisons nous aussi, d'une certaine façon. Mais vous ne croyez pas à tous ces livres qui sont parus, qui sont très nombreux, qui prédisent la sécession, la division, etc. Et vous, vous ne pensez pas, comme David Fench, qui est un politiste, que le maintien de l'unité des USA n'est pas assuré, par exemple. Il a écrit « Divided, we fall ».
Non, je ne le pense pas, tout simplement parce que ça fait partie, je pense, de l'histoire de ce pays, cette division. C'est-à-dire que c'est absolument pas un phénomène nouveau. Cet idéal, je crois, de la volonté générale, cet idéal rousseauiste de la volonté générale, c'est quelque chose de très français, cette idée que il y aurait une espèce de consensus qui serait au fondement de la société civile. Je pense que les États-Unis sont un pays qui est très divisé depuis très longtemps. C'est-à-dire que si une nouvelle guerre civile, en réalité, ce ne sera que la répétition de la première. Et ce sera certainement pour des causes assez similaires, c'est-à-dire la question raciale, c'est-à-dire la question de la division, disons, des mentalités, des histoires et des intérêts entre le Nord et le Sud. Et ces questions-là, en réalité, ce ne sont pas des nouvelles divisions qui auraient été attisé par Trump, mais c'est une vieille histoire qui ne s'est jamais véritablement résorbée. Et j'ajouterais qu'on avait dit qu'avant les élections, il y aurait certainement toute une série d'intimidations avant les urnes, qu'il y aurait des personnes qui, avec des armes, patrouilleraient devant les différents bureaux de vote. Ce ne sont pas des phénomènes qu'on a vus, ce ne sont pas des choses qui ont été notées et qui ont été rapportées. Il n'y a pas eu d'intimidation rapportée. Et donc, je pense que tous les éléments de la terreur, tous les éléments de pré-guerre civile qu'on a pu prévoir, pour l'instant, rien n'a été prouvé, rien ne s'est déroulé. Et même, les rodomontades, pour reprendre le beau terme que vous avez utilisé, les rodomontades de Trump ont été faites, certes, mais dans un cadre qui est le cadre de la démocratie et le cadre de la loi, et n'a rien dit qui était illégal. Il a juste, tenté de gonfler, de bomber le torse.
Ouais. Et néanmoins, quand vous dites la question de la division n'est pas au cœur et de l'unité n'est pas au cœur de la société américaine, il y a tout de même ce slogan « United we stand, divided we fall » qui est quand même un slogan qui remonte justement à l'époque de l'indépendance et qui est toujours repris dans toutes les écoles, un peu par tout le monde d'une certaine manière, et qui sert encore de slogan ou de devise à certains des États américains, par exemple. Donc il y a toujours cette question-là qui est là, mais peut-être comme une sorte d'idéal.
Il y a ce patriotisme, mais il est, je dirais, sans contenu. Si on compare au patriotisme français, au républicanisme français, il a beaucoup moins de contenu substantiel que peut l'avoir le patriotisme français. Mmh. Il n'y a pas de... les valeurs sont des valeurs, je dirais, des valeurs vides, comme celle de la liberté, comme celle de la propriété. Mm-hmm. Ce ne sont pas des valeurs qui sont, je dirais, fondamentalement liées à une histoire très dense, comme ça peut être le cas en France, où il s'agit, d'embrasser des symboles qui renvoient à une histoire et qui renvoient à un certain type de comportement, un certain nombre de comportements qui vous inscrivent dans le champ national.
Marion Douzou et puis Frédéric Ortebi sur cette question unité-division.
Oui, je crois que on peut quand même souligner le fait qu'il y a une polarisation, que la division ait toujours existé, ça je suis d'accord, mais je pense qu'il y a une polarisation qui s'est accélérée ces dernières années. Et pour utiliser un exemple qui permettrait d'illustrer ça, par exemple... La juge à la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, qui vient de mourir en 93.
Elle a été remplacée par Mme Abby Barrett.
Tout à fait. En 93, quand elle est nommée, quand le Sénat doit confirmer sa nomination, elle est confirmée avec 96 votes en sa faveur. Aujourd'hui, ce serait impensable. Donc, il y a quand même cette polarisation qui a rendu les institutions...
Une sorte d'unanimisme, vous voulez dire, à une époque qui faisait que, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, ou démocrate ou républicain, nommé par les démocrates ou par les républicains, il y avait, disons, beaucoup de gens qui venaient derrière vous et qui faisaient que, puisque vous êtes juge à la Cour suprême et inamovible, eh bien, on va vous permettre de vous installer. C'est moins le cas, dites-vous, par exemple, pour Mme Abby Barrett.
Alors, j'irai pas jusqu'à unanimisme, mais en tout cas, c'est sûr que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui et que les votes se font de manière partisane entre les démocrates et les républicains.
Et puisque Marion Douzou en est venue à cette question de la Cour suprême, du juge Amy Barrett, on dit qu'elle est, elle participe à un mouvement qu'on appelle le mouvement originaliste, vous qui travaillez sur les institutions, Frédéric Ortebiz, et en particulier derrière un autre juge qui s'appelle Antonio Scalia, qu'elle préconise par exemple le retour à la constitution des origines sans les ajouts des années 30, sans les ajouts rooseveltiens du New Deal et d'une restriction du pouvoir fédéral. Là, on peut se dire, les institutions, si Donald Trump est élu, il se pourrait qu'elles changent dans ce contexte-là, Frédéric Ortebiz.
Là encore, oui et non. Effectivement, donc, elle est une juge parmi les neuf de la Cour suprême.
Bien
il y a
sûr,
d'autres originalistes.
Oui, bien sûr.
Alors, l'originalisme, ça veut dire quand même une chose un peu plus précise. Ça veut dire que, selon les juristes originalistes, la Constitution doit être interprétée telle que les fondateurs, donc en 1787, l'ont pensé. Donc, il faut...
Une sorte de fondamentalisme constitutionnaliste, d'une certaine façon.
Voilà.
Retour au texte.
Tout à fait. Voilà. Et donc, les termes doivent être interprétés à travers le regard ou à travers l'esprit de ceux qui l'ont écrite. Bon, il y avait un juge avant Scalia qui suivait cette école de juridique, mais il n'est pas la seule, enfin, elle n'est pas la seule à la Cour suprême. Donc, ça, je ne pense pas que ça va changer fondamentalement. En fait, ce n'est pas l'originalisme qui va changer fondamentalement l'équilibre à la Cour suprême. Ce qui change fondamentalement, enfin, du moins, de manière importante, l'équilibre à la Cour suprême, et pour une période assez longue, c'est l'équilibre. Hein, il y avait jusqu'ici, grosso modo, 5 juges conservateurs et 4 juges plutôt progressistes, avec généralement un juge qui faisait le pivot, qui pouvait pencher d'un côté comme l'autre. Maintenant, avec une majorité de 6 contre 3, la majorité républicaine, on va dire plutôt la majorité conservatrice, est beaucoup plus solide. Pour revenir aussi à la question, si vous me permettez,
allez-y.
La division du pays. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marion Douzou. Certes, la confrontation des idées a toujours fait partie de l'histoire américaine. Les pères fondateurs le comprenaient, ils appelaient ça des factions. Confrontation d'idées, confrontation d'intérêts. Mais effectivement, comme le disait Marion Douzou tout à l'heure, ce qui est beaucoup plus inédit, c'est le côté radical et solidifié des majorités. C'est-à-dire que ce soit pour la confirmation des juges de la Cour suprême, des différents ministres, maintenant, le Sénat vote selon ce qu'on appelle en anglais le party line, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Étant donné qu'on a un système de séparation des pouvoirs beaucoup plus strict aux États-Unis qu'en France, il fallait forcément un certain degré de souplesse. Les présidents Nixon, le président Bush père ou le président Reagan avaient des congrès qui étaient démocrates. Ils ont quand même réussi à travailler avec eux. C'est-à-dire que les démocrates ont réussi à se mettre d'accord pour voter des textes proposés par Reagan ou enfin par des présidents du bord opposé. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Tout consensus semble quasi impossible.
Alors, on va voir si peut-être ça pourrait changer en fonction de l'élection, soit de Biden, soit de Trump, puisque on ne sait toujours pas lequel des deux a été élu, et on ne le saura peut-être pas avant demain ou après-demain. En tout cas, vous écoutez le temps du débat. États-Unis, le cadre démocratique peut-il tenir, avec Frédéric Hurtubise, que vous venez d'entendre, Marion Douzou et Norman Ajari depuis les États-Unis.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Le regard d'un Européen, y a-t-il plus Européen que David Bowie sur les Américains, I'm afraid of Americans, c'est donc dans le temps du débat, il est 18h44. Norman Ajari, vous nous disiez tout à l'heure que vous ne craignez pas, que vous ne pensiez pas que cette campagne soit beaucoup plus violente que elles ne l'ont été les précédentes. Vous disiez que la question de la division du pays n'était pas un risque selon vous dans le moment que nous connaissons et que de toute façon, peut-être Joe Biden n'est pas celui qui pouvait pousser, même si les troupes de Donald Trump le trouvaient trop d'extrême gauche ou de gauche ou socialiste, comme il le disait, qui pouvait pousser à l'opposition trop formelle avec Donald Trump, parce que Joe Biden n'était pas favorable, par exemple, à l'assurance maladie universelle, ce que voulait Sanders, et que peut-être ça aurait été encore plus difficile si Sanders avait été le candidat démocrate.
L'équipe de Trump a essayé de peindre assez péniblement, d'ailleurs, Biden comme étant un socialiste, voire même un socialiste radical, selon certaines des formules qu'on a pu entendre. Mais effectivement, c'est extrêmement loin de la réalité. Et oui, comme vous l'avez dit, il a abandonné cette mesure de l'assurance maladie universelle, c'est d'autant plus ironique que c'était quelque chose qui était proposé par lui-même alors qu'il était vice-président d'Obama sur le ticket d'Obama. Ouais. Peu de reculade en une dizaine d'années que de reculade, que de renoncement à de telles mesures. Et il est évident que Biden a fait cela pour ne pas prêter le flanc à ces attaques d'être un socialiste radical, d'être entouré par une équipe de marxistes, etc. Il a fait ça pour essayer de draguer l'électorat républicain. Et ça, c'est bien une preuve que peut-être qu'il y a, sur certaines questions, il est vrai, comme la question d'être pro-life ou pro-choice, c'est-à-dire la question de l'avortement, par exemple, de telles questions qui sont extrêmement polarisatrices, qui divisent extrêmement profondément certaines franges de la société états-unienne, mais en même temps, sur la plupart des grandes, la question écologique également, qui est fondamentale, mais sur énormément de questions économiques, sur énormément de questions sociales, sur énormément de questions qui sont fondamentales pour la vie quotidienne de la classe ouvrière états-unienne, eh bien, il n'y a quasiment que des différences extrêmement marginales entre les deux candidats. Donc, je trouve que, d'un point de vue démocratique, je préférerais que cette opposition franche, elle serait plus saine, disons, si c'était une opposition entre des programmes véritablement et substantiellement différents, et non pas simplement dans le cadre d'un référendum pour ou contre Donald Trump, ouais, comme on a vu là, qui est essentiellement, pas uniquement, mais quand même beaucoup, sur des mesures symboliques.
Oui, le programme, effectivement, de Joe Biden. On vient d'apprendre que l'équipe de campagne de Donald Trump annonce qu'elle va demander immédiatement à nouveau des comptes des voix dans le Wisconsin, où le dépouillement se poursuit ces temps-ci. Ça fait partie, effectivement, des jeux dont vous décriviez tout à l'heure, Norman Lajari, comme étant les jeux qui peuvent rentrer dans le cadre des institutions telles qu'elles sont maintenues aux États-Unis. Marion Douzou, tout de même, on se dit, il y a cette dimension, et on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Norman Lajari, dont c'est le sujet, cette dimension raciale qu'on a connue depuis maintenant 6 à 8 mois, avec évidemment l'assassinat de George Floyd, ce qui a suivi cet assassinat. Tout cela a tout de même aussi crispé des tensions très fortes, qui sont peut-être, comme le disait Norman Lajari, déjà présentes depuis très longtemps dans la société américaine, bien évidemment.
Oui, je pense que c'est, en effet, ces tensions sont loin d'être nouvelles, mais il me semble qu'elles sont... Elles sont encore
réactivées.
Elles ont été réactivées récemment. Mais peut-être pour revenir à ce que vous disiez juste avant, je crois que c'est important de penser l'élection présidentielle de 2020 comme une élection qui, en effet, s'est faite contre Donald Trump et où, en fait, on a très peu parlé du programme des candidats. Mmh. On a très peu entendu Joe Biden sur son programme. Et c'était surtout.
Il avait déjà dit dès le départ que de toute façon c'était le candidat anti-Trump. C'est comme ça qu'il s'est présenté, même au moment de la convention démocrate.
Oui, voilà. Alors c'est vrai, ça pose tout un tas de questions. Mais et je crois que en fait le discours de Trump, le peignant comme socialiste, a très très bien marché et marche en fait très très bien auprès de la base de Trump et auprès des républicains et des conservateurs.
Oui, c'est républicain et c'est conservateur. On parlait tout à l'heure de libre choix pour la question de l'avortement, qui, vous le racontiez dans un très bon article d'AOC au mois de juillet, avec comme slogan, quand il défilait contre les masques, « No, my body, my choice, no mask ». Donc, effectivement, ils avaient détourné dans leur manifestation les slogans de ces femmes qui veulent défendre la question de l'avortement aux États-Unis. Frédéric Hurtubise, cette dimension raciale dont on parlait est un peu plus complexe d'ailleurs qu'on ne le croit, puisqu'on a appris par exemple dans les dépouillements des votes en Floride que des électorats qu'on n'imaginait pas venir au soutien de Trump sont venus au soutien de Trump. Ce sont par exemple le vote latino, les américano-cubains qui sont venus voter pour Trump beaucoup plus qu'en 2016. Est-ce que ça change la donne justement si cette fracture raciale est différente et peut-être passe à l'intérieur de ces communautés qui sont pourtant généralement assez mal vues du public WASP pour certaines d'entre elles?
Alors, le vote latino est beaucoup moins monolithique qu'on ne le pense. Je crois que c'est un tort d'associer les Mexicains, les Cubains ou d'autres, ou des citoyens américains venant d'autres pays d'Amérique du Sud. Il y a en fait des différences très importantes et qui ne sont pas nouvelles. Les Cubains américains, qui sont très importants en Floride, ont toujours soutenu les républicains, et ce depuis Kennedy, et depuis notamment
depuis la baie des cochons.
Raté de la baie des cochons, tout à fait. Et puis, il y a des grandes disparités de revenus, de niveau d'intégration dans la société américaine. Ce n'est pas parce qu'on est latino d'origine mexicaine qu'on va voter tout le temps pour les démocrates. On voit beaucoup de latinos au Texas ou ailleurs dans le sud des États-Unis qui, une fois un certain niveau de vie atteint, une fois avoir, on va dire, pris part au rêve américain, parfois aussi parce qu'ils se sont convertis au protestantisme évangélique et non plus au catholicisme, peuvent très bien pencher pour un vote républicain. Donc c'est vraiment un tort d'imaginer que le vote latino est monolithique et qu'il est forcément et qu'il sera toujours acquis aux démocrates.
Non, mais on avait appris effectivement que lors du vote de 2016, par exemple en Floride, Donald Trump n'avait obtenu que 2 votes non blancs sur 10, comme on dit aux États-Unis, et qu'effectivement là il y en aurait plus, voire beaucoup plus en Floride. Vous voulez intervenir sur cette question, Marion Douzou?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et c'est vrai que dans le mouvement du Tea Party, qui est un mouvement à majorité blanche, il y avait plusieurs, j'ai rencontré pas mal de militants qui étaient qui avaient immigré aux États-Unis de pays d'Amérique latine et qui avaient cette aversion pour le communisme et le socialisme et qui s'en servaient dans les meetings Tea Party pour exprimer leur haine à l'époque le mot est choisi à dessein leur haine pour Barack Obama et pour les programmes qu'il mettait en place.
Norman Najari, cette question de la ligne raciale, pourrait-on dire, dans les possibilités de tension dans la société américaine, ça n'est pas nouveau, vous nous disiez depuis tout à l'heure, mais ça a été largement réactivé depuis cet été.
Oui, c'est vrai, mais on voit bien qu'en ce qui concerne les votes, ça n'a pas changé grand-chose. En ce qui concerne le vote noir, par exemple, ce qui est d'ailleurs possiblement une mauvaise chose, en tout cas selon moi, ce n'est pas forcément une très bonne chose qu'aussi peu de personnes noires votent Trump et que ça reste un électorat captif des démocrates, puisque les démocrates ne font aussi bien que les républicains ne font absolument pas grand-chose en termes de justice raciale et de programme de justice raciale. Le statu quo arrange un petit peu tout le monde et la population noire, en gros, les femmes votent en gros, comment dire, à 90%, c'est pas tout à fait exactement ça, mais bon, grosso modo, 10% des femmes noires votent pour les républicains et 20% seulement des hommes noirs votent pour les républicains. On est toujours sur ce même statu quo aujourd'hui, et ça fait que, comment dire, leur vote n'est absolument pas tenu pour un enjeu d'importance par aucun des candidats. Trump a pu tenter de capter leur vote un petit peu en faisant quelques appels du pied. Disons symbolique, en s'entourant de quelques personnalités populaires, des rappeurs, etc., de manière un petit peu grotesque et un petit peu loufoque, pour tenter de capter cet électorat, mais cela n'y a rien fait. Et il est vrai que c'est une population qui a extrêmement souffert de l'épidémie, parce que je pense que c'est tout de même un sujet d'importance et que c'est essentiellement sur cette épidémie que Trump, à cette épidémie que Trump devra sa défaite si, disons, la tendance actuelle qui est tout de même à la défaite de Trump se confirme, c'est cette épidémie qui lui a mis véritablement du plomb dans l'aile. Sans cette épidémie, sans cette pandémie de coronavirus et sans la gestion extrêmement critiquable de Trump, tout laisse à penser qu'il aurait eu un boulevard pour l'emporter.
Frédéric Ortebise, vous nous disiez depuis le début la capacité, la résilience, aurait-on dit dans l'émission que nous avons faite hier, la résilience des institutions américaines devant les crises qu'elles ont pu connaître, etc. Là, en l'occurrence, vous le pensez visiblement aussi. La question de ce collège électoral dont on a parfois dit il faudrait peut-être le changer. Il y a eu des tentatives de se dire que ce collège électoral des grands électeurs pouvait être modifié parce qu'il remontait justement à une période assez ancienne et qu'on pourrait peut-être passer à un autre mode de désignation de la présidence et du président. Ça n'est pas le cas pour l'instant et ça ne sera pas le cas, quelle que soit la victoire du candidat que l'on connaîtra d'ici 2 ou 3 jours.
Non, absolument pas. Donc ça, le mode de désignation du président a été décidé dans la Constitution. Et pour la changer, la procédure est extrêmement compliquée. Il faut que les 2/3 du Sénat votent l'amendement qui est proposé, qui serait proposé pour le changer. Il faudrait que la Chambre des représentants vote aussi aux 2/3 cette proposition. Il faudra ensuite que les trois quarts des États, donc 38 des 50 États, ratifient cet amendement qui aura d'abord été passé aux deux tiers par le Congrès. Or, on le sait bien, les petits États tirent profit en fait de la Constitution actuelle qui leur donne
une importance,
une voix voilà, disproportionnée par rapport à la population. Hein, juste pour donner une idée, en Californie, il y a à peu près un grand électeur pour 730 000 habitants.
38 grands électeurs,
et au Wyoming,
je crois, quelque chose comme ça.
C'est 55,
55
en Californie.
C'est 38 au Texas.
Voilà, c'est ça. Soit en Californie, un grand électeur pour 730 000 habitants. Dans le Wyoming, qui est un grand État par la taille, mais très peu peuplé, c'est un grand électeur pour 200 000 habitants. Donc certes, la disproportion est moins flagrante qu'au Sénat, où là, il y a deux sénateurs par État, quelle que soit la population, mais elle favorise néanmoins les petits États au détriment des grands États comme le Texas, la Californie ou New York, par exemple.
Et donc, malgré les critiques qui reviennent généralement tous les 4 ans autour de ces institutions, la façon dont elles fonctionnent, etc., vous nous dites, Frédéric Ortebis, qu'il y a très peu de chances qu'elles soient bousculées, qu'elles soient transformées, qu'elles soient changées, pour, entre guillemets, les adapter au monde contemporain. D'ailleurs, faut-il les adapter, Marion Douzou ?
Alors, je crois qu'il y a, une initiative qui me paraît intéressante, qui est une initiative plus grassroots, donc de la base, qui s'appelle le Popular Vote Compact, et qui est une tentative de réunir un certain nombre d'États qui seraient d'accord pour changer leur loi et que ces États attribuent leurs grands électeurs aux vainqueurs du vote populaire national. Ce qui, s'ils arrivaient à faire ça dans un nombre suffisant d'États pour arriver aux 270 grands électeurs nécessaires, en fait, rendrait ce collège électoral caduc. Donc ce serait une façon de réformer le collège électoral sans passer par le processus de l'amendement qui est très difficile à obtenir.
On apprend à l'instant même que 49,4% des voix pour Biden et 48,80% pour Trump dans le Wisconsin après dépouillement de 99% des voix. Donc effectivement, c'était un état qu'on attendait pour pouvoir savoir ce qu'il en était. Et c'est peut-être aussi pour ça que les défenseurs de Trump disent qu'il va falloir recompter ses voix. Un dernier mot, Norman Ajari, vous qui avez été relativement optimiste sur la sortie de cette élection et de la capacité de la société et plutôt des institutions américaines à tenir le coup face à ces tensions qu'on en a cru connaître depuis l'Europe.
Bien, je pense que dans quelques jours, je suis convaincu qu'on aura un résultat clair. Je suis convaincu que les institutions vont contraindre Trump à accepter sa défaite ou Biden, ce sera certainement moins difficile pour Biden à accepter sa défaite ou sa victoire. Et je ne doute pas qu'il y aura bientôt un nouveau président américain ou le même qui restera à l'office et que tout cela se passera sans haine, sans armes et sans violence.
Merci à tous les trois, en tous les cas, d'avoir réfléchi à cette question de la solidité des institutions américaines, de la carcasse démocratique des États-Unis. Merci à vous, Norman Ajari. Je rappelle que vous êtes auteur de La dignité ou la mort, éthique et politique de la race, aux éditions Empêcheurs de tourner en rond et La découverte. Marion Douzou, vous avez fait votre thèse sur le Tea Party. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine à Lyon 2 au laboratoire Triangle. Et quant à vous, Frédéric Ortebis, on peut lire de vous Le péril rouge, Washington face à l'eurocommunisme, aux éditions des PUF en 2014. Et vous êtes maître de conférences en civilisation américaine à Paris-Nanterre et membre du comité de rédaction de Politique américaine. C'était Le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Iman Gilles à la technique avec nous ce soir. Marie-Claire Oumabadi à la réalisation, Alexandre Manzanares. Demain, dans Le temps du débat, une émission sur l'état de droit en Hongrie, en Pologne. La Hongrie et la Pologne menacent-elles la solidarité européenne ? Dans 3 minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte pour Affaires culturelles, ce soir en compagnie de l'écrivain Miguel Bonnefoy. Vous écoutez France Culture, il est tout bientôt 19h. Les titres de l'actualité vous sont présentés ce soir par Damien Mestre. Bonsoir Damien.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous.